Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici au Centre Sèvres pour cette soirée qui s'inscrit dans le cadre habituel des mardis d'éthique publique en partenariat avec la revue Études. Bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent en direct ou en différé dans plusieurs villes de France et aussi, je crois me souvenir, de l'étranger. Bienvenue aux auditeurs de RCF qui nous écoutent en différé. Comme pour la soirée du mois dernier, le partenariat s'est élargi puisque cette conférence s'inscrit dans un cycle de 6 conférences sur l'Europe, initiée début février au Collège des Bernardins. C'est en effet une opération conjointe entre le Collège des Bernardins, le département d'éthique publique du Centre Sèvres, la revue Études, le CERAS, Centre d'études et de recherche en action sociale, et la revue Projet, qui sont plus directement impliqués dans la soirée d'aujourd'hui. C'est un rappel d'éteindre vos portables. La chaîne Arte est aussi partenaire de ce cycle. Et nous n'oublions pas RCF qui, comme je l'ai dit à l'instant, retransmet notre débat. Je vous informe d'emblée que la prochaine conférence de ce cycle aura lieu mardi prochain, 9 avril, au Bernardin. Son thème est Saint Patron, que nous dites-vous de l'Europe ? Avec le père Jean-Baptiste Arnaud, théologien, Sophie Bingeli, spécialiste des Liechtenstein, et Daniel Odon-Hurel, historien spécialiste du monachisme bénédictin. Avant de laisser la parole à l'organisateur de la soirée, je rappelle la petite consigne habituelle. Les 3 interventions sont donc diffusées sur le réseau RCF, mais pas le débat qui suivra. Au bout des 55 minutes prévues pour la rediffusion, nous marquerons la transition par quelques applaudissements pour indiquer aux techniciens que nous passons à la deuxième partie. Je vous le rappellerai tout à l'heure. Je laisse donc maintenant la parole au père Marcel Raymond, directeur du CERAS, qui présente le thème de la soirée et son déroulement.
Merci François. Bienvenue et merci d'être présent. Le thème de la soirée est en lien avec le dernier numéro de la revue Projet qui vous sera proposé à la sortie, qui a comme titre « Mobilité en Europe, où allons-nous ? » Les mobilités en Europe sont-elles une chance ou un défi ou un malheur, une souffrance pour l'Europe ? Alors, le débat ce soir va essayer de donner quelques pistes, de donner quelques analyses à propos de ce concept de libre circulation, de fluidité, de mobilité, d'échange. Si vous allez sur le site de l'Union européenne, vous pouvez lire une petite présentation qui montre que la mobilité est dès le début du projet européen. En 1957, le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, la CEE, marque l'ouverture d'un processus ambitieux, l'intégration progressive des économies européennes pour créer un marché intérieur, le marché commun. Si ses fondateurs voient dans le marché commun un moyen de dynamiser l'économie des pays membres, ils sont aussi animés par une ambition politique. Le rapprochement des peuples d'Europe par le biais des échanges économiques. Pour y parvenir, les pays européens, donc en 1957, entreprennent de supprimer une à une les barrières internes à la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, ce qu'on appelle dans le jargon européen les 4 libertés de circulation, de mobilité. 4 libertés qui forment le marché commun. L'argument est très simple et très efficace. Si vous allez sur le site, Vous pouvez regarder ce que j'ai fait ce matin, un reportage de l'ORTF en 1957 expliquant simplement pourquoi le fait d'enlever les frontières, de laisser la libre circulation, ça allait faire que l'Europe puisse vivre en paix. Le premier argument, très simple, simplement, c'est que la mobilité des personnes permettra aux Européens et aux Européennes de mieux se connaître, et cela sera un ferment pour la paix entre les nations après la Deuxième Guerre mondiale. Traverser les frontières permet de ne pas se battre. Deuxième argument, la circulation, la libre circulation des biens et des services va créer des liens d'interdépendance entre les gens, et donc cela réduira les risques de guerre commerciale. Et on voit par exemple actuellement entre les États-Unis et la Chine comment l'interdépendance commerciale fait qu'on ne décide pas comme on veut de faire la guerre. Troisième grande idée, grand argument de l'époque, c'est que la fluidité des marchés de capitaux, donc de l'argent, permettra d'irriguer et d'homogénéiser les territoires, suivant une sorte de principe de vase communicant. C'est assez physique. Si vous avez deux vases, si vous faites un trou qui communique entre les deux, ben les deux vont devenir plus égaux, vont converger vers une égale répartition. Quatre libertés, la liberté de libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Cela permet de renforcer la paix entre les nations, la connaissance des peuples, d'empêcher la concurrence et entre autres les guerres commerciales et de répartir mieux les richesses de telle façon qu'on arrive à une égalité ou une meilleure répartition des richesses. Quatre libertés qui sont, dès 1957, indissociables les unes des autres. On doit prendre les quatre libertés à la fois, pas trois des quatre. Et vous entendez maintenant dans les débats sur le Brexit que toute une série de propositions, c'est d'en enlever une des quatre, mais de garder les trois autres. Alors aujourd'hui, on remet en question deux grandes idées. Est-ce qu'il faut que les quatre libertés soient indissociables? Est-ce qu'on ne peut pas en supprimer une, par exemple celle des personnes, et garder seulement les finances et les biens et les services? Et deux, est-ce que c'est clairement en rendant fluides les choses que l'égalité ou la juste répartition va arriver? Est-ce que nous sommes dans un processus de vase communicant ou y a-t-il autre chose qui se place? Alors pour répondre à ces deux questions, nous avons trois intervenants qui vont nous éclairer. Le premier, Pierre-Noël Ligiraud, qui est économiste à l'École des mines de Paris et qui vient de publier un essai intitulé « L'homme inutile, une économie politique du populisme » va nous éclairer peut-être sur cet imaginaire de vase communicant. Parce que, en fait, lorsqu'on a une fluidité énorme de personnes, de biens, de services, de capitaux, est-ce qu'on n'est pas en train de se dissoudre un peu comme de la couleur qui se dissolverait dans de l'eau? Finalement, on perd son identité. Et donc, est-ce que la fluidité à tout prix n'est pas un risque de dilution? Et donc, il va nous éclairer sur cette question de l'identité et du populisme. Mathilde Dupré, notre deuxième intervenante, est responsable du programme Commerce de l'Institut Veblen et chargée de plaidoyer pour le CCFD Terre Solidaire sur les questions de justice fiscale, de responsabilité des entreprises multinationales. Elle parlera de la libre circulation des biens et des services dans une perspective de politique commerciale européenne. Est-ce que la liberté, le libre-échange des biens et des services, est-ce que ça fait vraiment une égale? Est-ce que ça converge vers une plus juste répartition? Et finalement, le père Martin Meyer, jésuite à Bruxelles, chargé au GESC, Jésuite European Social Center, des questions européennes, va nous aider à relire les débats actuels au moment des élections européennes, sur les enjeux que l'Europe est en train de vivre. Je passe pour une première intervention la parole à Pierre-Noël Giraud qui va nous parler un peu de comment la mobilité en Europe peut être un risque pour l'Europe.
Merci. Vous avez admirablement posé le problème, donc ça va me permettre d'écourter mon introduction. Comme vous l'avez dit, le projet européen, c'était la paix et la prospérité. La prospérité, c'est la croissance pour tous et le rattrapage des plus pauvres. Et le moyen, c'était les libertés de circulation des capitaux, des marchandises, et biens et services et des hommes. Et il faut ajouter aussi la liberté de circulation, certaines libertés de circulation avec l'extérieur, en particulier des biens et services et des capitaux, moins les hommes. L'immigration externe était contrôlée. Eh bien, on peut dire que le projet a échoué. C'est-à-dire que le moyen n'était pas à la hauteur de l'objectif. Nous n'avons pas évité la guerre en Yougoslavie. On ne s'en souvient pas assez, à mon avis. Nous n'avons pas réussi à éviter la guerre. Il a fallu que les Américains viennent régler le problème pour nous. Et quant au rattrapage économique, il y a eu un certain rattrapage jusqu'en 2008. La crise financière, à la fois de la péninsule ibérique et puis un peu des pays de l'Est, presque pas des Balkans, et puis ça s'est arrêté. Le rattrapage économique s'est arrêté entre les parties riches et les parties pauvres de l'Europe. Et il faut savoir que quand il s'est arrêté, encore maintenant, par conséquent, les écarts entre l'Allemagne, par exemple, et la Bulgarie ou la Roumanie sont deux fois plus important que les écarts entre l'État le plus riche des États-Unis, New York ou le Massachusetts, et l'État le plus pauvre des États-Unis, le Mississippi. Et ils sont même plus importants que l'écart entre l'ensemble des États-Unis et le Mexique. Donc, avec l'élargissement à l'Est et aux Balkans, nous nous sommes posés un défi de convergence économique que nous n'avons pas été en mesure de auquel nous n'avons pas été en mesure de faire face. Bon. Pourquoi ? Eh bien parce que la libre circulation des marchandises et des capitaux ne suffit pas. C'est-à-dire que l'effet vase communicant se produit très lentement. Et par conséquent, ce sont les hommes qui se déplacent. Quand les emplois ne vont pas où sont les hommes, eh bien les hommes vont là où sont les emplois. Parce qu'ils en ont assez de végéter dans les trappes d'inutilité dans lesquelles ils sont pris, là où il n'y a pas d'emploi. Donc les hommes ont beaucoup circulé malgré l'obstacle de la langue. Et 500 000 Grecs travaillent en Europe, en dehors de la Grèce. Je ne parle pas des Grecs qui sont en Australie. 1 million de Polonais étaient en Grande-Bretagne et étaient concurrencés par des flux croissants de Roumains à la veille du Brexit. Et il n'y a plus de main-d'œuvre dans l'Europe de l'Est. L'industrie automobile allemande qui s'est installée là-bas ne trouve plus d'ouvriers parce qu'il y a un d'actifs sur 10 de l'Est qui est venu travailler à l'Ouest. Alors, ceci va peut-être à terme avoir un effet de rattrapage ou accélérer le rattrapage, mais enfin pour l'instant, ça a surtout provoqué le Brexit et la montée des populismes. Donc, sur ce plan, il y a échec. Voilà. Par ailleurs, sur le plan extérieur, qu'avons-nous fait ? Bon, nous avons très bien absorbé et assez bien géré les flux d'immigration extra-européenne jusqu'à la crise syrienne. Bon. Et heureusement, parce que vous savez que comme l'Europe est en effondrement démographique, pas tellement la France, mais en tout cas l'Allemagne, c'est une nécessité absolue. Et entre nous, qui sommes des gens raisonnables, on peut le dire, le grand remplacement, il a commencé, il va se prolonger. Si vous prenez la pyramide des âges de l'Allemagne, et que vous appliquez le taux de fertilité actuel des femmes en Allemagne, j'ai pas dit des femmes allemandes, j'ai dit des femmes en Allemagne, kurdes comprises, qui est de 1,4, eh bien, dans un siècle, il n'y a plus que 20 millions d'Allemands. Voilà, 80 millions aujourd'hui, 20 millions dans un siècle, avec un taux de fertilité de 1,4, c'est mathématique. Bon. Donc on a maîtrisé ça, sauf jusqu'à la crise syrienne, qui a provoqué les crispations que l'on sait. Mais en revanche, sur le plan de la liberté de circulation économique, des biens et des capitaux, là, nous avons été les dindons de la farce. De la farce de quoi ? De la farce de la phase libérale de la mondialisation. Bon. Parce que ces règles qui ont été adoptés par le Conseil européen, sous la forte influence de nos amis britanniques d'ailleurs, parce que l'ordo-libéralisme allemand et le colbertisme français n'étaient pas spontanément prêts à les accepter. Donc ces règles que nous avons acceptées, alors que les Américains les suivaient assez peu, et les Chinois pas du tout, bon, font que, eh bien, il y a des GAFA aux États-Unis, il y a des GAFA en Chine, il n'y en a pas en Europe. Alors que nous avons d'excellents ingénieurs de l'informatique, de l'intelligence artificielle et tout ça. Et qu'on a même renoncé récemment à la constitution d'un champion du ferroviaire européen. Mais ça, on va le faire quand même, parce que le vent est en train de tourner. Qui aurait pu faire concurrence aux champions chinois, parce que la compétition est mondiale, sous prétexte qu'on n'aurait plus eu qu'un en Europe, évidemment. Bon, il n'y en a qu'un en Chine. Bon. Donc nous avons échoué aussi sur ce plan-là. Bon. Or, maintenant, que faire? Ben, d'abord, se rendre compte que le monde a changé, du point de vue des mobilités. Avant, la doctrine dominante était le libéralisme, plus ça circule et mieux c'est pour tout le monde. Bon, même s'il y en a qui trichaient ou qui n'étaient pas du tout d'accord et qui s'opposaient à cette doctrine. Maintenant, en face de nous, nous avons deux grandes puissances qui sont à parité technologique, à parité scientifique quasiment, les États-Unis et la Chine, et qui sont devenues une mercantiliste. C'est-à-dire que ce qu'elles veulent attirer chez elles, c'est non pas l'or, comme les mercantilistes historiques, et elles veulent attirer les emplois de haute technologie, la technologie et tout. Et elles se donnent les moyens de la souveraineté économique, d'une politique industrielle. C'est très différent, la Chine et les États-Unis, mais l'objectif est le même. Et depuis Trump, l'objectif est le même. Nous avons donc deux géants qui s'affrontent, et nous, au milieu, que faisons-nous? Bon. Eh bien, à mon avis, il n'y a qu'une solution, c'est si l'on ne veut pas éclater, si on ne veut pas que l'Europe éclate, dans ce que j'appelle dans mes écrits des capitalismes de type Singapour, c'est-à-dire des petites entités avec des îlots extrêmement compétitifs sur le plan mondial, ce que j'appelle des nomades très actifs, mais très spécialisés, très agiles, et puis autour une masse de sédentaires bien resserrée, Israël, si vous voulez, voilà, Israël ou Singapour. Ça, c'est une forme d'économie qui tire son épingle du jeu dans la mondialisation actuelle. Si nous ne voulons pas devenir ça en Europe, ou disons être obligés de tenter cette voie-là, et ce sont les régions elles-mêmes qui vont tenter ça, ça va être la Catalogne qui va tenter ça, ça va être l'Angleterre, pas forcément la Grande-Bretagne, dans le Brexit, mais l'Irlande ne voudra pas, l'Écosse ne voudra pas. Donc un fractionnement en régions qui chacune, en compétition les unes avec les autres, tentent leur chance d'être un Singapour ou un Israël, eh bien si on ne veut pas ça, il faut absolument que l'Europe se recentre autour d'un premier cercle. C'est peut-être déjà trop tard, en raison de ce qu'est en train de devenir l'Italie. Premier cercle des fondateurs, plus la péninsule ibérique, plus les pays du Nord qui voudront. Ça, c'est un premier cercle. Et ce premier cercle vise une liberté totale de circulation. Il se réserve l'euro. L'euro, c'est uniquement pour cela. Et avec un deuxième cercle où il y a la Grande-Bretagne, tous les pays de l'Est, des Balkans, etc., éventuellement la Turquie un jour, ou le Maroc, etc., là, on passe des accords comme les États-Unis avec le Mexique. Donc, qui limite éventuellement l'une des mobilités, en particulier celle des hommes. En tout cas, qui la maîtrise. Bon. Voilà. Et si on ne fait pas ça, je pense qu'on éclate, parce que nous sommes, je répète, entrés dans un monde où de fait, on est passé d'une espèce de phase qu'on peut qualifier de mondialisation libérale, où les mobilités étaient considérées comme le moyen de la prospérité générale et partagée, à un monde mercantiliste où s'exercent des puissances économiques et militaires, et soit l'Europe devient une puissance, la troisième, économique et militaire, et pour ça il faut qu'elle se soit recentrée avec quelque chose qui l'entoure, avec qui elle a des relations spéciales, mais négociées, évolutives, ou alors elle éclate, et il y aura une très forte différenciation, si vous voulez, entre certaines régions de Grèce et puis la Vénétie, le nord de l'Italie, la Catalogne, pourquoi pas Toulouse, etc. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, un panorama d'éclatement ou de recentrement, donc deux manières d'imaginer l'avenir de l'Europe. Il y a une semaine, j'étais à la conférence des évêques de France où il y avait la conférence avec Père Martin Meyer aussi, la conférence des évêques d'Allemagne et la conférence des évêques de Suisse. Et nous avons entendu plusieurs personnalités, dont une, la présidente de l'IFRI, donc de l'Institut français de relations internationales, qui signalait que l'Europe avait fait deux choix qui sont uniques par rapport aux grands, Chine, Russie et États-Unis, comme il disait, deux choix qui sont hors courant. Un, c'était, après la guerre, la démilitarisation. On n'a pas investi autant que les autres pays dans l'armée. Et l'autre, le multilatéralisme contre le bilatéralisme. En disant, ben, l'Europe est toute seule à dire, nous, on veut des accords multilatéraux. On veut aussi ne pas mettre de l'argent dans nos armées. Alors, on entend maintenant les politiques disent, il faut peut-être une armée de l'Europe. Il faut peut-être avoir des contrats bilatéraux. Donc, je passe la parole à Mathilde Dupré, qui est vraiment sur le commerce et les biens et les services, et qui va parler aussi de ces politiques commerciales européennes qui sont justement, qui influencent énormément la conception qu'on a de l'Europe, mais aussi le rapport qu'on a entre soi et avec les autres. Mais.
Ça marche, oui. Bonsoir à tous et merci pour cette invitation. Je vais compléter un petit peu ce qui a déjà été dit sur le commerce, en y ajoutant peut-être encore une dimension en plus, celle de l'environnement, qu'on a aussi essayé d'évoquer un peu dans le papier qu'on a publié dans la revue Projet avec Xavier Ricard Lanata. Donc pour reprendre quelques éléments, la politique commerciale aujourd'hui, c'est certainement l'une des politiques communes les plus intégrées dans l'Union européenne. Elle relève de la compétence exclusive de l'Union européenne pour l'essentiel, et elle est conduite par la puissante DG Trade de la Commission. Et il se trouve qu'elle traverse une crise de légitimité sans précédent, notamment parce que le projet de partenariat transatlantique de commerce et d'investissement avec les États-Unis, qui s'inscrivait dans un contexte international de négociation de différents méga-projets commerciaux, à la fois avec son pendant, l'accord transpacifique, et l'accord régional que la Chine négocie avec ses voisins, a suscité en fait à l'intérieur de l'Union européenne un regain de mobilisation citoyenne sans précédent. Suite à la suspension de ces négociations avec les États-Unis, dans leur forme initiale, en tout cas en août 2016, c'est l'accord avec le Canada, le CETA, qui a cristallisé pas mal de mécontentements. Et dans la société civile, ce qui est intéressant, c'est de voir que de multiples voix se sont élevées pour alerter sur les dangers de cet accord CETA, à la fois sur le plan social, économique, environnemental, mais aussi démocratique. Et au-delà des ONG, des syndicats qu'on peut retrouver souvent, on a vu la mobilisation d'associations de consommateurs, de PME, de fédérations d'agriculteurs, l'Association européenne des magistrats, par exemple, qui ont pris part à ce mouvement. En octobre 2016, la fronde des parlementaires wallons a presque empêché la tenue du sommet organisé pour la signature du CETA. Et en France, une commission d'experts qui a été nommée par le gouvernement à la demande de Nicolas Hulot pendant la campagne présidentielle a confirmé en 2017 les risques sanitaires et environnementaux liés à cet accord. Et donc suite au rapport qui a été rendu par cette commission, Emmanuel Macron, qui était pourtant très favorable à cet accord CETA, a déclaré lors d'un discours à la Sorbonne sur l'Europe « J'entends les ambitions portées par certains, mais je leur dis attention, je suis prêt à vous suivre, à condition que cette politique commerciale soit profondément renouvelée, profondément changée. Je ne veux pas de nouvelles discussions commerciales avec les règles d'hier qui nous ont conduits à ces situations absurdes que nous avons aujourd'hui sur l'accord entre l'Europe et le Canada. » Sauf que s'est-il passé depuis ? Eh bien, presque rien, ou presque, puisque non seulement le CETA est entré en application provisoire quelques jours après cette déclaration, et il est en cours de ratification maintenant dans les différents États membres. Et de son côté, la Commission européenne continue de le présenter comme un accord exemplaire et qui sert de modèle pour toute une série d'accords commerciaux qui sont en cours de négociation. Donc il y a eu des accords qui viennent d'être adoptés avec le Japon, avec Singapour, et puis d'autres accords qui sont en négociation. Il y en a toute une palette, notamment récemment, on a commencé les négociations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, par exemple. Alors, dans un sondage mené par OpinionWay pour le printemps de l'économie en 2018, on voyait un fort désamour des Français qui s'exprimait vis-à-vis de la mondialisation, puisque presque 65% des personnes interrogées considéraient que la mondialisation avait des effets néfastes sur l'emploi et les salaires, pour 55% des effets négatifs pour la préservation de l'environnement. Et à peu près dans les mêmes proportions, 66% des sondés considèrent qu'il faudrait imposer des normes plus strictes pour les produits entrants et sortants, et donc revoir la politique commerciale qui est aujourd'hui menée. Donc comment expliquer cette situation ? Je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la politique commerciale qui a été conduite par l'Union européenne, elle nous a mené dans une triple impasse, comme le relevaient les experts de la commission Schumer mandatée par le gouvernement sur le CETA. Les bénéfices à attendre des accords de libre-échange ont par le passé été surestimés par leurs promoteurs, tandis que les conséquences distributives ont été minimisées et les externalités négatives tout simplement ignorées. Et donc ce constat, je pense, explique en partie le décalage entre le discours de la Commission européenne en faveur de la politique commerciale qu'elle mène et puis les résultats perçus par les citoyens, et ce décalage qui alimente de la méfiance, du rejet. Donc je disais, on peut relever au moins trois impasses de cette politique actuelle. La première, c'est l'impasse démocratique. Ça a été beaucoup souligné pendant les négociations avec les États-Unis, mais il y a un vrai déficit de transparence, de débat, de participation des parties prenantes et de contrôle démocratique de la politique commerciale. On pourrait éventuellement y revenir. Deuxième chose, c'est une impasse sociale, c'est-à-dire qu'il y a un déficit aujourd'hui de politique d'accompagnement pour compenser les perdants d'une libéralisation accrue des échanges. C'est-à-dire que la théorie économique nous enseigne que la politique d'ouverture commerciale génère des gains à l'échelle d'une économie, mais qu'il y a toujours des ajustements qui peuvent laisser un certain nombre de personnes sur le carreau. Et donc il convient d'utiliser une partie des gains qui ont été réalisés pour compenser les pertes de ceux qui ont vu leur situation se détériorer. Or, cette partie-là, elle passe souvent à la trappe. Et au sein de l'UE, il apparaît aujourd'hui fondamental de mettre en place des mécanismes pour corriger les déséquilibres entre les pays, entre les régions, pour prévenir le risque de désintégration qui était mentionné tout à l'heure. Et puis la troisième impasse, c'est une impasse environnementale, parce qu'il y a une absence totale de prise en compte des impacts environnementaux de la politique commerciale. Et donc on l'observe par exemple avec une très très grande difficulté à prendre en compte, par exemple, les engagements que la communauté internationale s'est fixée dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Pourtant, c'est un sujet important. Quand on regarde, il y a un rapport qui est fait chaque année maintenant en France sur un certain nombre d'indicateurs de richesse. C'est le résultat d'une loi qui a été adoptée sous la mandature précédente, sous la proposition de Madame Sasse. Et donc en 2017, on pouvait lire dans ce rapport qu'en 2017, l'empreinte carbone de la France était constituée à 56% par des émissions associées aux importations. Et en fait, ça veut dire que bien qu'on ait réussi à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre d'à peu près 20% entre 1995 et 2017, nos émissions intérieures, le doublement des émissions que l'on importe les échanges, finalement, a engendré une hausse globale de l'empreinte carbone de 20% de la France. Et donc ça, c'est vraiment le résultat d'une politique européenne qui fait primer les objectifs de la politique commerciale sur toutes les autres politiques publiques. On l'a vu pendant les négociations de l'accord de Paris sur le climat, par exemple, la Commission européenne avait explicitement dit à ses négociateurs de ne prendre aucun engagement dans l'accord de Paris qui pourrait avoir un impact négatif sur les échanges commerciaux. Donc là, c'était assez clair. Donc de fait, dans l'accord de Paris, on ne comptabilise pas les émissions importées. Les pays sont pas tenus de regarder ce qui se passe de ce côté-là. On comptabilise pas non plus le transport international des individus, mais aussi des marchandises. Donc on voit qu'il y a des lacunes importantes qui compromettent d'autant plus nos chances de réussir à tenir les objectifs qu'on s'est fixés collectivement. Et donc tout ça provoque évidemment des fuites de carbone vers des pays moins disants environnementalement. Et donc c'est vraiment quelque chose qui conviendrait de pouvoir traiter dans la politique commerciale aujourd'hui de l'Union européenne. Et au-delà de ces trois impasses, l'agenda commercial actuel de la Commission, il se traduit donc par une multiplication, je le disais, des accords en négociation et par une extension progressive de leur portée. Donc on parle d'accords de nouvelle génération, c'est-à-dire des accords qui portent sur des sujets de plus en plus larges. Donc on s'attaque plus seulement aux obstacles tarifaires, puisqu'il reste plus beaucoup de droits de douane, mais on regarde toutes les normes de protection sanitaire, alimentaire, sociale, environnementale. C'est aussi des accords qui organisent une forme de droit de regard de nos partenaires commerciaux et éventuellement des acteurs privés sur les réglementations existantes et à venir. Donc on l'a vu là avec la première année de mise en application provisoire du CETA, par exemple, le comité sur les normes sanitaires et phytosanitaires a été l'occasion pour le Canada de faire part de ses inquiétudes relatives à une éventuelle interdiction de produits comme le glyphosate au sein de l'Union européenne ou dans des pays membres. Et puis ce sont des accords qui généralisent la mise en place de juridictions un peu spéciales pour les entreprises multinationales avec le fameux mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États qui permet à des entreprises de demander des compensations quand les États adoptent des politiques publiques dont elles considèrent qu'ils nuisent à leurs intérêts. Donc tous ces éléments-là contribuent à renforcer un phénomène de capture croissante par le secteur privé de la capacité de réguler des États et donc limitent encore par conséquent les marges de manœuvre des États pour effectuer une véritable transition écologique et pour accompagner les populations les plus fragiles et impactées par la mondialisation. Alors face à ces constats, Quelle solution ? Aujourd'hui, l'Union européenne prétend que la seule voie possible et souhaitable dans le contexte actuel qui est marqué par la guerre commerciale qui a été déclenchée par Donald Trump, ce serait de continuer à multiplier ces accords bilatéraux. Sauf qu'à ce jeu, elle risque malheureusement de provoquer sa propre perte en alimentant encore plus les mécontentements et les frustrations. Donc une des pistes que l'on proposait nous, c'était d'essayer de marquer une pause et d'essayer de changer de logique en regardant comment les règles commerciales internationales peuvent être revues pour permettre de protéger ce qui compte et autoriser l'intervention des États, des collectivités locales pour piloter la transition écologique et sociale. Et que forte de la taille importante de son marché intérieur, l'Union européenne aurait un rôle majeur à jouer à cet égard. Donc pour réduire l'empreinte des activités économiques, on pourrait essayer de réorganiser les activités selon un principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on pourrait essayer de relocaliser un certain nombre d'activités qui peuvent l'être en adoptant des modes de production les plus sobres possibles. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on commence de plus en plus à penser dans le secteur agricole, mais qui est loin d'être mis en œuvre, puisque dans les règles actuelles, il est impossible aujourd'hui de mettre des critères de localisation. Par exemple, dans les marchés publics, si on veut essayer d'acheter local, on peut pas le dire en tant que tel. On peut essayer de mettre des critères de fraîcheur, de certains standards, etc. Mais on peut pas dire que on veut essayer de s'approvisionner localement, puisque les règles commerciales auxquelles on a souscrit à l'échelle internationale ne le permettent pas. Et puis on le voit par exemple avec l'accord avec le Canada, on prévoit d'importer de la viande canadienne pour le consommateur européen et en compensation, parce que les éleveurs européens sont très très inquiets de ce que ça pourrait provoquer sur leurs activités, on essaye de leur ouvrir des nouveaux marchés au Japon, en Chine, etc. Donc on voit qu'on est loin encore de mettre en œuvre cette logique de relocalisation. Et alors dans les autres secteurs d'activité, c'est encore moins pensé. Pourtant, essayer de passer vers ce principe-là, ça permettrait d'essayer de promouvoir de l'emploi local et de renforcer l'acceptabilité sociale de la transition écologique. Alors, il ne s'agit pas pour nous de dire qu'il faut ériger des barrières commerciales en tant que telles, mais d'essayer de mettre en place des systèmes d'écluses qui permettraient de gérer les écarts différentiels, notamment sociaux, environnementaux, qui existent entre les différents marchés, comme on utilise des écluses entre des plans d'eau de hauteurs diverses. Alors, pour nous, il nous semble que il est évidemment important d'essayer de privilégier la voie multilatérale pour favoriser des échanges coordonnés de restrictions aux échanges, justement pour pas rentrer dans une guerre commerciale et une loi du chacun pour soi comme les États-Unis le pratiquent en ce moment. Que pour que ce soit acceptable pour tout le monde et pour nos partenaires, il faut fonder ces mesures de protection sur des objectifs internationalement reconnus. Dans les instruments de droit, donc par exemple les conventions de l'OIT sur le travail, l'Organisation internationale du travail, sur les conventions multilatérales sur l'environnement, le climat, la biodiversité, etc. Aussi sur les règles fiscales qu'on est en train d'essayer de redéfinir, par exemple à l'échelle de l'OCDE. Et puis il faut essayer de mettre en œuvre ces dynamiques-là dans une logique coopérative, c'est-à-dire que par exemple si on met des mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, eh bien les recettes qu'on pourrait collecter avec ces mécanismes-là, on pourrait essayer de les affecter à des initiatives qui visent à aider nos pays partenaires, notamment les pays en développement, à améliorer les standards de production chez eux pour que justement on puisse aller vers du mieux-disant à l'échelle internationale. Et donc c'est évidemment dans le contexte actuel un gageur d'essayer d'avoir ces discussions-là, mais ça nous semble aujourd'hui fondamental. Et pour commencer à aller dans ce sens, on pourrait essayer déjà avec des partenaires bilatéraux dont on est les plus proches. Donc on a souvent dit qu'on était très proches, par exemple des Canadiens avec lesquels on a conclu le CETA. Et donc en lieu et place du CETA, on pourrait essayer de penser à un premier nouvel accord de ce type. Merci.
Merci beaucoup. Ben voilà, toujours dans cette question de vase communicant, de mobilité, de fluidité, ben, une nouvelle image, celle des écluses, où on régule le flux de l'un vers l'autre pour essayer d'atteindre un équilibre de façon pas trop brutale. Dans la construction européenne, c'est aussi une histoire de nations qui essayent de travailler ensemble. Alors, au niveau de la politique, les images et les systèmes politiques doivent aussi être fluidifiés. Et dans le numéro sur l'Europe, une des présentations, c'est montrer que chaque pays a son imaginaire et son fonctionnement politique, qui peut être à un, deux ou trois niveaux, peu importe. Et l'Europe a plusieurs niveaux, donc vous avez la Commission, les responsables des nations qui sont le Conseil de l'Europe avec son exécutif qui sont les commissaires. Et puis vous avez, donc ça c'est vraiment les élus de chaque nation, mais qui vont être à la fois porteurs de leur nation, mais aussi de leurs électeurs. Donc, ils ont aussi besoin de revenir aux électeurs pour être élus la fois suivante. Donc, il y a une sorte de légitimité démocratique, mais qui vient des élections nationales. Vous avez maintenant le Parlement européen qui, depuis quelques années, mais là, nous allons en entendre parler, commence à prendre sa propre légitimité. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment les élections européennes, mais qui elles aussi sont colorées par la nationalité, par le territoire. Je veux dire, un Français n'a pas le même rapport à l'élection européenne aujourd'hui qu'un Italien, on est dans des, ou qu'un Anglais si jamais devait voter. On voit bien que ça dépend aussi du contexte national. Voilà deux niveaux de pouvoir qui sont en train d'établir un rapport de force qui est en train de changer. Nous avons un troisième pouvoir qui est en train, mais vraiment, on vient d'en parler avec le CETA et le glyphosate, c'est un pouvoir qui est l'initiative citoyenne qui, elle, traverse complètement l'entièreté de l'Europe, c'est-à-dire s'il y a 1 million de personnes qui posent au Parlement européen une question. Donc l'initiative citoyenne, on en parle de plus en plus, c'est encore tout au début. Et il y a le niveau qui est un peu absent, qui est le niveau des régions. Et dans chaque pays, il y a des rapports aux régions qui sont différentes. Alors, comment tout ça peut fonctionner? Et on voit bien qu'il y a des dysfonctionnements parce que justement, la fluidité du rapport de force, la représentativité, de la dimension politique est questionnée. Et donc, le père Martin Mayer qui écrit un peu, il a fait un article sur « Il faut défendre l'Europe », va nous dire un peu de façon plus prospectif et surtout plus positif un peu son rêve et quels sont les enjeux pour lesquels l'Europe pourrait avancer.
Bonsoir, merci pour l'invitation, merci à vous pour votre patience avec mon français. Je suis allemand de naissance, mais européen de conviction et de vocation. Et permettez-moi de donner d'abord deux réponses plus personnelles à cette question de cette soirée, la mobilité, une chance pour l'Europe. Ma réponse est décidément oui. Et je me souviens des 3 ans que j'ai pu passer à Paris, où j'ai reçu beaucoup de grâces, et parmi elles, l'ordination diaconale en 1987, ici dans l'église Saint-Ignace. Et j'ai exercé quelques mois comme diacre avant l'ordination sacerdotale dans la ville allemande de Hof, qui à cette époque était encore près de la frontière inter-allemande. L'Allemagne en 1989 était encore coupée en deux par le rideau de fer, et dans la région de Hof c'était pas un mur mais c'était une clôture. Et j'ai fait du vélo le long de la frontière, j'ai vu passer les oiseaux, et je me suis dit, quand est-ce que ça serait possible qu'un jour je peux passer cette frontière comme les oiseaux, et m'incliner devant le tombeau de Johann Sebastian Bach à Leipzig, que j'admire beaucoup. Et vous savez qu'il a duré moins de 6 mois que ce qui a été considéré comme impossible s'est produit. Le mur est tombé. L'Allemagne a été réunifiée et l'Europe s'est unie au-delà de ce qui était une frontière idéologique et géopolitique pendant des décennies. Ça, c'est mon premier point. Et le deuxième souvenir, il y a 10 ans, j'ai visité pour la première fois la Pologne. J'ai fait un vol de Munich à Cracovie, je suis descendu de l'avion, et il n'y avait pas de contrôle de frontière, parce que la Pologne fait partie de l'espace Schengen, hein. Et je suis allé au collège des jésuites, je suis entré dans l'église jésuite, et dans l'entrée, il y a une plaque mémoriale avec plus de 80 noms de jésuites polonais, qui ont été assassinés dans les camps de concentration de l'Allemagne. Et j'ai fait une visite pèlerinage de Auschwitz, et ça m'a coupé le souffle. Ça, c'est la toile de fond de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne. Et je crois qu'on ne doit pas perdre de vue que, dans une perspective plus large, c'est une histoire d'un succès historique inouï. Énorme, avec tous les problèmes, et je rejoins beaucoup de ce qui a été dit. Mais pour moi, c'est ça un peu la perspective plus large. Hein. Je pourrais beaucoup parler aussi des crises. Je veux souligner davantage encore ce que je considère comme la crise la plus sérieuse de l'Union européenne. C'est la crise des réfugiés. Et le pape François, il emploie plutôt aussi le mot de chance des réfugiés, parce qu'il dit c'est une chance. L'identité de l'Europe était toujours déjà multiculturelle et dynamique, et elle a profité de la multiculturalité. Dans la musique, je donne volontiers l'exemple de Georg Friedrich Händel, compositeur né en Allemagne. Il a passé comme jeune musicien un an et demi en Italie. Il a assimilé les baroque italien. Il est allé en Grande-Bretagne et le Messie de Händel ne serait pas ce que nous aimons et ce que nous admirons aujourd'hui sans ce conflux de traditions et de culture musicale. Donc, c'est une chance aussi, la multiculturalité et l'immigration. Tout de même, je crois que c'est le défi majeur en ce moment, parce que il ne s'agit pas de quotas, mais il s'agit de personnes humaines. Et ce qui était en jeu, c'est les valeurs fondamentaux de l'Union européenne, la dignité humaine et la solidarité. Et je vois ces crises multiples aussi comme des chances. Vous savez que dans l'écriture chinoise, le signe de crise, c'est toujours aussi la chance. Il y a des chances, il y a des opportunités. Et la crise démographique a été mentionnée déjà par le premier orateur. Et une politique de la migration humanitaire peut être une réponse. C'est pas une solution facile, parce qu'il se pose toute la question aussi de l'intégration, mais ça peut être aussi une chance. Et je reprends aussi ce qui a été dit par Mathilde Dupré, la crise écologique, qui, à mon avis, est la crise majeure de notre époque, parce qu'elle met en question l'avenir, l'existence de l'humanité. Et vous savez que le pape François, il y a 3 ans et demi, il a dédié toute une encyclique à ce défi, Laudato Si, une encyclique dramatique, mais en même temps aussi optimiste et joyeuse, parce qu'il dit que il y a des possibilités aussi de changement, de conversion écologique, il y a la possibilité d'un nouveau modèle qui va au-delà du paradigme technocratique, qui est pour lui une des causes principales aussi de la crise écologique. Jacques Delors, qui est pour moi un grand, grand Européen, président de la Commission européenne de 1995 à 2005, il a reçu, je crois que c'était en 2005, un doctorat honoris causa ici à l'Institut catholique. Et dans un discours remarquable, il disait que on pourrait relancer la grande Europe sur l'écologie. Une vision tout à fait prophétique à cette époque, parce qu'il n'y avait pas encore autant de conscience du dramatisme aussi du défi écologique. Et mon espoir et mon optimisme, c'est que l'Union européenne, l'Europe, a les moyens technologiques, économiques et aussi politiques pour construire un nouveau modèle, de civilisation que j'appelle une civilisation de la frugalité partagée. Qui répond aux défis écologiques, qui répond aux défis sociaux, qui sait unifier aussi ces deux défis, parce que ça c'est la thèse de fond aussi de Laudato Si, qu'on ne peut plus séparer la question écologique de la question sociale, parce que c'est les pauvres qui subissent les conséquences le plus. Donc, je crois que là, il y a une perspective et il y a aussi un horizon qui pourrait réunifier et relancer ce qui est l'Union européenne. Il y a 70 ans, c'était la réconciliation, le pardon et la paix qui a poussé en avant le projet européen. Et à mon avis, aujourd'hui, ça pourrait être le défi écologique et je cite un des pères fondateurs, Jean Monnet, qui disait au début de l'unification européenne, l'Europe doit être une contribution pour un monde meilleur. Et je crois qu'elle peut l'être. Merci.
Merci à Martine Meyer. Nous pouvons effectivement applaudir. Vous avez bien tenu les consignes. Nos intervenants, donc nous passons à la deuxième partie. Je ne chercherai pas surtout à faire la synthèse des différentes interventions. Vous voyez que les sensibilités peuvent être diverses à cette table. Nous avons un bon temps de débat avec la salle. Je crois que des micros devraient circuler. Voilà. Il va y avoir, on va s'en occuper. Donc des micros vont circuler et vous avez quelques minutes pour préparer les questions, à moins peut-être que dans ce temps de mise en place technique, les deux premiers intervenants voudraient ajouter des choses. Non. On va discuter, ça sera très bien. Voilà. Et nous allons donc... Donc comme c'est l'habitude, nous prenons deux ou trois questions. En même temps, vous pouvez dire éventuellement à qui votre question s'adresse, si ce n'est pas extrêmement clair. Voilà, merci donc de lever la main pour les premières questions, qui sont toujours un peu plus lentes à venir, mais tant que ça s'amorce. Moi, j'ai vu une main qui se levait dans le fond. Voilà.
Merci beaucoup. Donc Louis Gundermann, du Mouvement Européen en France. Deux remarques et une question pour... Monsieur Giraud, d'abord une petite remarque, juste un petit point. Vous avez évoqué la crise démographique de l'Europe et donc l'hiver démographique européen. Et c'est vrai qu'en France, pour l'instant, on parlait des taux de natalité qui étaient plutôt élevés. Bon, maintenant, on passe en dessous de 2 enfants par femme en âge de procréer. Donc ça évolue. Et puis en Allemagne aussi, ça évolue beaucoup, puisqu'en 2017, ils sont à 1,53 ou 1,54 enfants par femme. Donc ça augmente à toute vitesse aussi. Là, encore, ça, l'Europe bouge vite et inclut dans mobile. Et puis, vous avez beaucoup évoqué aussi la divergence. Et c'est sur ce sujet-là que va apporter ma question. Une divergence économique, politique, sociale, peut-être. Bon, alors, dans le détail, on peut faire bien un distinguo entre les pays de l'Est qui ont plutôt convergé et les pays de l'Ouest qui, entre eux, ont plutôt divergé. Mais vous avez beaucoup évoqué l'Europe à plusieurs vitesses. Et moi, ce qui me frappe, c'est que cette optique, elle est assez populaire en France. Mais quand on parle avec des Européens non français, et pas tant les Européens de l'Est, tout de suite on sent une grande réticence, d'autant plus que quand on regarde l'attitude politique vis-à-vis du projet européen, on voit bien que des pays comme l'Estonie sont parfois plus en avant ou veulent plus une grande intégration que des pays comme l'Italie. Donc sur quelle base on pourrait faire cette union plus proche à plusieurs cercles, sachant en plus que l'Europe à plusieurs cercles, elle est déjà là. Il y a l'euro, il y a les différentes coopérations approchées qui existent déjà. Donc est-ce que cette volonté de faire une Europe finalement entre nous, à 8, à 9, à 12, je ne sais pas, est-ce que c'est pas forcément une illusion? Vous avez dit que c'est peut-être déjà trop tard, mais est-ce que c'est pas déjà 20 dès le départ en raison de finalement différentes politiques qui sont pan-européennes et pas du tout nationales?
Merci bien. Alors, continuons. D'autres questions? Juste devant, une dame qui lève la main. Voilà.
Pourquoi tout ce blocage? L'Europe est bloquée. L'Europe est bloquée en ce moment et il faut la débloquer. Et depuis un moment, il faudrait la débloquer. Est-ce que ça vient uniquement des migrants? Je ne pense pas. Et quelque chose va arriver pour un événement après les élections, j'espère. Parce que les frontières actuellement ne sont pas si ouvertes que ça. Il y a beaucoup à faire. Voilà ma question.
Merci. Y a-t-il une troisième question? Je ne vois pas. Si.
Je vais m'exprimer au nom des auditeurs bordelais. Et pour, on a bien vu effectivement qu'il y a des sensibilités différentes, mais finalement, tous, vous nous faites rappeler, ne pas oublier l'histoire et confirmer notre attrait pour une vision européenne. En revanche, j'aurais bien aimé que Madame Dupré, que Bordeaux nous demandait de faire réagir Madame Dupré à l'enjeu que rappelait Martine Mayer sur relancer l'Europe de l'écologie. Dans vos explications, vous lisiez bien toutes les difficultés qu'il y a, puisque même l'empreinte carbone n'est pas calculée sur, n'est pas prise en compte.
Voilà, merci. Nous allons en rester là pour cette première série de questions. Donc, il y en avait qui étaient directement dirigées vers Pierre-Noël Giraud, mais les autres intervenants peuvent compléter ou débattre.
Oui, sur la démographie, ça peut, les taux de fertilité, le taux de natalité, par conséquent, par femme, peuvent varier. D'ailleurs, ils sont assez variables en Europe. Ils peuvent remonter dans certains pays, mais disons, avec les tendances actuelles, on a quand même ce phénomène d'effondrement démographique dans certaines zones de l'Europe. Bon, on peut d'ailleurs se demander quel est l'inconvénient. Ça s'accompagne d'un vieillissement des populations, mais après tout, bon, une Allemagne à 20 millions d'habitants, une espèce de Liechtenstein plus vaste, les forêts teutoniques auraient réenvahi, il y aurait de l'agriculture biologique partout, tout ça entièrement renouvelable. Et évidemment, les usines Mercedes seraient entièrement en Afrique. C'est là qu'est le marché, 2,5 milliards d'habitants, pendant qu'il y a 20 millions d'Allemands. Bon, c'est un avenir possible, ça. Moi, il ne me fait pas peur. Mais quand même, ça fait de la question de l'intégration une des questions absolument centrales dans l'Europe qui vient. Ça, c'est pas la peine de se mettre la tête sous le tapis. C'est une des questions centrales, celle-là, la crise climatique. Et la conséquence sur tout ça de la révolution numérique, quand même. Cette fois, ça risque de pas être tout à fait comme avant. C'est-à-dire qu'il est possible qu'on ait une phase de transition, une destruction d'emplois et d'inutilité pour certains, une phase assez difficile. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'il est trop tard pour faire une Europe resserrée qui se donnerait les instruments d'une puissance économique? C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas pour faire un marché ou même une zone euro. On peut se faire ça à 28, on voit quand même l'inconvénient de la zone euro et les contraintes que ça a posées sur la Grèce, etc. Je sais très bien, comme tout le monde, que l'Estonie est ultra en avance sur nous, sur l'application de l'intelligence artificielle à l'administration publique. Enfin, ils ont réussi à faire la même chose avec le même État, avec trois fois moins de monde. Bon, et l'Estonie, c'est bien loin. Dans mon schéma, elle n'était pas dans le premier cercle, mais bon. Et de toute façon, c'est en cours. C'est en cours. Donc moi, la forme que prendra ce mécano, on verra bien. Les Allemands sont maintenant convaincus qu'il faut une politique industrielle. C'est un grand changement. Le mot politique industrielle était un gros mot jusqu'à récemment. Je parle sous votre contrôle. Bon, là, on a parlé beaucoup de politique de concurrence, c'est très important, mais de commercial extérieur. Mais la politique de concurrence interne est aussi très importante. Donc il y a déjà une différenciation, il y a déjà des pays qui veulent aller plus loin ensemble, mais on est quand même dans des traités où la Bulgarie peut stopper tout ça, c'est tout, voilà, dire niet, je veux pas. Ouais, ça c'est plus possible. Donc il faut bien une refonte politique qui permette à ceux qui le souhaitent d'aller plus vite et de se doter des instruments pour lutter dans un monde d'armes à armes égales, dans un monde mercantiliste avec les deux autres grands. Et bien sûr, on ne souhaite pas la guerre commerciale. Je suis économiste, je sais que c'est un pari risqué. Mais par contre, la protection des industries naissantes ou la réindustrialisation, ça j'y crois. C'est légitime. Bon. Mais si on ne veut pas la guerre, il faut la préparer. Si on veut la paix, il faut la préparer. Donc les deux grands blocs concurrents entre eux, avec des capitalismes assez différents, s'observe, se mesure. Il y a une telle interpénétration qu'en effet, ça ne va pas être l'apocalypse. Mais quand même, l'enjeu fondamental, c'est quand même l'hégémonie dans tous les domaines, scientifiques, économiques, militaires. Bon. On ne va pas jouer ce jeu-là à 28 avec les traités actuels. Nous ne faisons aucune illusion. Voilà. Donc, on ne joue pas, mais alors on va éclater, comme le Brexit l'indique. Où on joue, il faut se réorganiser. Voilà. Ça, oui.
Allez-y, oui.
Alors, par rapport à la question écologique, enfin, je n'ai pas pris le temps de le dire, mais je pense que effectivement, ce sont des enjeux tellement, tellement grands, tellement gros que l'échelon européen est important pour essayer d'apporter des réponses à la hauteur. Et d'ailleurs, l'échelon européen n'est pas suffisant puisqu'il faut aussi continuer sur l'accord de Paris, sa mise en œuvre, l'approfondir, etc. Donc, de ce point de vue-là, l'échelon européen est quand même a tout son rôle. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ça reste compliqué de fédérer les pays autour de cette question-là. Je pense que il faut s'y atteler et c'est on voit des choses qui avancent. Malheureusement. Pas toujours aussi vite ou aussi fort qu'on le souhaiterait. Je peux partager avec vous ce qui est le sujet de mon inquiétude du moment. C'est la question de la réouverture des négociations commerciales avec les États-Unis. Effectivement, sous la menace des mesures tarifaires qui ont été déclenchées unilatéralement par Donald Trump, pour calmer le jeu, les Européens ont essayé de dire qu'on pourrait relancer des négociations, pas de l'ampleur d'un partenariat transatlantique, mais quand même avec une négociation sur les biens, une négociation sur la coopération réglementaire en fait. Et donc au départ, on avait dit qu'on négocierait pas avec les États-Unis sous la menace. On avait dit, et notamment la France, mais l'Union européenne avait repris cet engagement à son compte, que on ne négocierait pas de nouvel accord commercial avec des pays qui tourneraient le dos à l'accord de Paris sur le climat. Et là, finalement, on est en train de revenir sur ces engagements-là parce que, notamment, Trump menace très fortement l'industrie automobile et donc, en particulier, l'industrie automobile allemande, de nouvelles mesures de rétorsion si on n'avance pas dans les négociations commerciales. Et donc, on voit que l'unité européenne s'effrite complètement face à ce type de pression extérieure et que la France visiblement serait la seule, et encore on n'a pas de certitude complète à avoir porté la question de un veto en raison de l'accord de Paris au Conseil. Elle serait très isolée et tout le monde aurait mis la pression sur Paris pour que on dise oui à l'ouverture de ces négociations. Donc il y aura une réunion demain encore au pair à nouveau et il pourrait y avoir une décision dès le 15 avril prochain pour aller de l'avant. Donc voilà, on voit que quand il s'agit d'enjeux économiques et commerciaux, malheureusement, les enjeux et les engagements climatiques environnementaux, on a du mal à les faire peser pour l'instant. L'autre chose que je voulais souligner, moi j'ai beaucoup travaillé sur la question de la lutte contre l'évasion fiscale et typiquement, c'est un sujet sur lequel l'Europe est complètement en porte-à-faux, puisque elle a à l'intérieur même des 28 ou 27 un certain nombre de pays qui sont des paradis fiscaux, mais les règles européennes ne permettent même pas de le dire. Donc quand l'Union européenne fait une liste de paradis fiscaux, et ben elle traite toujours des pays tiers, mais elle ne nomme aucun des pays en son sein qui joue le même jeu. Donc là récemment, puisque on est dans une période préélectorale, le Parlement européen a fait un vote où justement ils ont nommé 5 paradis fiscaux européens un peu pour la première fois. C'était historique, mais on voit que c'est parce que il y a bientôt les élections et donc tout le monde se réveille un peu. Et sur les questions de fiscalité, on est tenu par une règle de l'unanimité et donc l'Irlande peut mettre son veto, le Luxembourg peut mettre son veto, les Pays-Bas ou autres dès qu'il s'agit d'avancer. Et donc on n'arrive pas à faire de la convergence fiscale, on n'arrive pas à rehausser les standards. Et donc, de ce fait, la voie européenne, elle est quand même difficilement crédible par rapport au reste du monde. Et peut-être la dernière chose que je voulais souligner sur les blocages, je pense que il y a des propositions qui ont été mises sur la table sur une démocratisation encore de l'Union européenne, du fonctionnement de ses institutions, et qui sont importantes, notamment sur tout ce qui se passe au Conseil en fait, parce que aujourd'hui le Conseil travaille comme un espace intergouvernemental. C'est très difficile de savoir ce qui s'y passe réellement, les positions qui sont tenues par les États membres. Et je pense qu'on aurait tout intérêt aujourd'hui à rendre transparentes en fait ces discussions, parce que ça permettrait aux citoyens, mais aussi aux parlementaires nationaux et à toutes les parties prenantes de demander des comptes véritablement à leurs États pour savoir quelles ont été les positions qui ont été tenues dans les différentes négociations. Et donc, je suis sûre que ça débloquerait un certain nombre de sujets et ça permettrait plus certaines tractations sur des sujets qui n'ont rien à voir ou enfin voilà une politique intergouvernementale qui est pas à la hauteur de l'intégration européenne qu'on est censé avoir atteint à ce jour.
Un des premiers jésuites disait « Notre maison est le monde », une visée globale. Et le sous-titre de l'encyclique Laudato Si du pape François, c'est aussi le souci pour notre maison commune. Et dans cette perspective, je ne suis pas tellement préoccupé pour l'évolution démographique de l'Allemagne. En même temps, nous savons que l'Afrique, jusqu'à la fin de ce siècle, arrivera à 2,5 milliards. Et donc, c'est là où sont les grands défis. Il est vrai aussi, c'est ce que je note à Bruxelles, que la question démographique n'est pas prise au sérieux. J'ai participé à un dialogue avec des fonctionnaires de la Commission, et j'ai dit que ça c'est la manière anglaise de parler quelque chose qui est dans la salle mais qu'on ne veut pas voir, reconnaître, the elephant in the room, l'éléphant dans la salle, c'est la démographie. Mais on a l'impression que il ferme les yeux. Une autre date, autre chiffre que je voulais simplement mentionner, ça c'était récemment aussi une rencontre avec des économistes de la Commission sur les traités Union européenne AKP countries, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Chaque année, en Afrique, il y a 15 millions de jeunes qui cherchent un poste de travail. Et 3 millions en trouvent un. C'est-à-dire, chaque année, vous avez 12 millions de jeunes Africains qui restent dans l'air. Une autre chiffre aussi démographique pour souligner ce qui a été dit déjà. Depuis 1989, il y a eu 2,3 millions d'habitants de la Roumanie qui ont quitté leur pays et qui se sont installés dans des pays de l'Ouest. Le chiffre pour la Pologne, 2,5 millions de Polonais. Et c'est quelque chose de très très préoccupant. Et pour en venir à la question, l'Europe est bloquée, oui. Est-ce que c'est dû seulement à la question de la migration? Non. Je crois que la question de la migration est la question la plus sérieuse, comme j'ai essayé de le signaler. Mais en même temps, on a perdu l'esprit de ce qui a donné naissance à l'Union européenne. Et je veux citer encore Jean Monnet, un des pères fondateurs, et c'est ça pour moi la règle d'or du projet de l'unification européenne. Il disait en 1950, quand il a reçu la délégation qui a signé la déclaration Schuman, il disait « Nous sommes là pour accomplir une œuvre commune, non pas pour négocier des avantages, mais pour rechercher notre avantage dans l'avantage commun ». Et ça mérite une méditation profonde, cette phrase. Nous sommes là pour accomplir une œuvre commune, non pas pour négocier des avantages, mais pour rechercher notre avantage dans l'avantage commun. Et je crois que ce principe, cette règle d'or, devrait s'appliquer à la question de la migration, à la question sociale, à la question économique. Et si on y arrivait, je crois que on arrivait à débloquer ce qui est en ce moment bloqué en Europe.
Merci. Alors nous pouvons prendre une deuxième série de questions.
Bonsoir. J'avoue en vous entendant tous avoir le sentiment, un sentiment très négatif, parce que vous ne parlez jamais de véritablement de chance pour l'Europe. J'ai du mal à trouver dans vos interventions une réponse positive qui permettrait justement de mobiliser les sensibilités pour revenir vers des fondamentaux. On parle d'économie, on parle de difficultés, on parle de blocage, mais on parle pas de chance. Donc j'aimerais bien dans vos différentes interventions que vous nous indiquiez aujourd'hui quelles sont les véritables chances que l'Europe possède, parce que c'est 400 millions d'habitants qui vivent ensemble. Alors je suis tout à fait attentif au discours du pape, mais quand on parle de milliards, de 2 milliards en Afrique, effectivement, avec toutes les difficultés qu'ils connaissent, avant tout, il faut pouvoir apporter une réponse en Afrique et pas forcément, et on ne répond pas par là, aux problèmes qui peuvent se poser en Europe. Donc qui peut porter aujourd'hui ces chances de développement de l'Europe pour notre bien commun et aussi notre capacité à répondre aux défis du monde.
Merci. Il y a une main qui s'est élevée devant. Relevez votre main. Voilà.
Oui, on a un peu l'impression de « y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Alors, la question, c'est « peut-on corriger cette règle de l'unanimité ?» Ou faut-il un référendum d'initiative populaire pour mettre la question sur le tapis ?
Merci. Alors, y a-t-il une troisième question ? Oui. Bon, ça sera pour la série suivante.
Oui, bonsoir, excusez-moi. Je suis comme tout le monde, j'éprouve un profond malaise devant la situation actuelle parce qu'on a l'impression que les problèmes sont partout et que la coordination n'est nulle part. Il y a des problèmes nationaux, il y a des problèmes européens, il y a des problèmes mondiaux. Et on essaye de tout résoudre à la fois et on ne peut pas. D'abord, effectivement, l'Europe des 28, comment voulez-vous que 28 pays qui ont des origines, une histoire, une culture, une économie, un rayonnement, tous différents les uns des autres, arrivent à s'entendre à l'unanimité? Parce que dans certains cas, les votes se font à l'unanimité. Je pense qu'il faut quand même être réaliste et se dire que c'est absolument impossible. Bon, quant à ces problèmes d'entente interne, s'ajoutent les problèmes mondiaux que sont l'immigration, l'extension de l'islam, la mondialisation, les problèmes de Donald Trump, les conflits économiques avec la Chine, etc. On s'y perd complètement. Moi, je repense au général de Gaulle, excusez-moi. Quand on lui posait des questions sur l'Europe, il disait « Oui, l'Europe, il ne faut pas sauter comme ça sur son tabouret, comme une chèvre, comme un cabri. » Autrement dit, il envoyait promener tout le monde parce qu'il avait l'impression qu'on mélangeait tout. Et c'est un petit peu le problème. Moi, je ne vois pas la solution parce que les problèmes sont bien réels. L'Europe est une nécessité. Moi, je voudrais vraiment être européen, mais je ne vois pas comment on peut, avec cette règle stupide de l'unanimité dans bien des domaines, répondre aux questions. Et puis deuxièmement, pourquoi est-ce que dans l'acte de naissance et dans toute l'évolution de l'Europe depuis 15 ans, on nous a pratiquement jamais demandé notre avis? Je pense que la plupart des Européens se sentent frustrés parce qu'il y a des questions qui sont extrêmement importantes et pour lesquelles il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu de vote. Bon. Et comme les problèmes se sont multipliés, eh ben, j'ai maintenant l'impression, pardonnez-moi l'expression qui n'est pas très poétique, que l'Europe est devenue un cancer avec des métastases qui se répandent partout et contre lesquelles on ne peut plus rien. Bon, alors, excusez-moi d'employer cette expression, mais comment stopper ce processus de dégradation, ce découragement face à la multiplication des problèmes, à la diversité des civilisations, à cette règle de l'unanimité et tout le reste?
Merci.
Je pense que le malaise vient de là.
Merci. Donc il y a à la fois les chances de l'Europe et puis les nombreux problèmes. Mais alors, en prenant le même ordre.
je ne sais pas si j'ai donné l'impression d'un grand pessimisme. Moi, mon rôle d'intellectuel, je le conçois comme un rôle d'analyste. Donc, je crois que personne ici ne va contester que ça peut pas tellement continuer comme avant et qu'on est à un tournant. Donc, il s'agit de bien identifier les questions qui font qu'on est à un tournant et les options. Je pense qu'il y a aussi pratiquement un consensus pour dire qu'on a un problème de fonctionnement organisationnel de l'Europe. Voilà. Bon, la règle de l'unanimité nécessaire pour toute une série de choses en est une, mais il y en a d'autres. Une certaine conception de la concurrence, une certaine conception des bienfaits du libre-échange, etc., etc. Mais tout ça peut changer. Moi, je suis au contraire, si vous voulez, que je sois optimiste, frappé de ce que, depuis le Brexit, en fait, les Européens qui étaient en train de ronronner, comme ça, dès qu'il y avait un peuple qui disait « je suis pas d'accord », on lui disait « tais-toi », puis on continuait. Et puis le peuple en Grande-Bretagne a dit « ça suffit », son système politique est incapable de le faire sortir de là correctement. Moi, à la limite, je souhaite qu'on ait un Brexit sans accord. Ça va être un moment de vérité pour tout le monde. Il faudra se déterminer à ce moment-là. Est-ce qu'on est dedans, on n'est pas dedans? Donc, voilà, si vous voulez, une touche d'optimisme. Quand il y a une crise, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Et d'ailleurs, si vous regardez, enfin, si vous analysez un peu les grands problèmes qu'on a évoqués, on sait ce qu'il faut faire. Les solutions, elles sont à notre portée, et technologiques, et organisationnelles. Voilà. Climat, on sait quoi faire. Le choc numérique, le défi de l'intelligence artificielle, tout ça, on sait quoi faire. Maîtriser des migrations, on sait quoi faire. Il faut un certain filtre, il faut que le filtre soit humain, digne, et puis ensuite, il faut intégrer les gens avec un sas au passage, etc. Bon, on sait faire. La vraie question, c'est pourquoi on le fait pas.
Alors, quoi? Les autres compléments. Je relève le contraste entre l'absence du pilote dans l'avion et le besoin de démocratie. Alors, est-ce qu'il faut un chef ou est-ce qu'il faut une démocratie intégrale?
Il faut savoir que récemment, un livre est sorti de Luc
Van Middelaar,
qui s'appelle « Quand l'Europe improvise », pour bien dire que donc son analyse en tant que journaliste, mais quand même très proche du milieu, était de dire que ben finalement, l'Europe, elle ne fonctionne qu'en improvisation, que ce soit la crise de l'euro, que ce soit la crise des migrants, que ce soit la crise de l'Ukraine et autres. Alors, c'est pour dire que la question n'est pas elle est très sérieuse.
Oui, j'insisterai encore sur une perspective plus historique. L'histoire de l'Union européenne, c'est une histoire de crise. On a évoqué Charles de Gaulle dans les années 60, la crise de la chaise vide et la crise financière et la crise économique. Et d'une façon ou d'une autre, et tout à fait dans ce sens comme Marcel le disait, en improvisant, l'Union européenne a su dépasser ces crises, peut-être pas donner des solutions toutes faites. La question, je suis d'accord qu'il y a un déficit institutionnel, il y a un déficit démocratique dans l'Union européenne, mais pour la question du vote de l'unanimité, c'est vrai qu'il y a des décisions qui doivent être prises à l'unanimité, mais le traité de Lisbonne a introduit aussi le vote de ce qui est appelé la majorité qualifiée. Et c'est juste pour contrarier ce problème de l'unanimité et la majorité qualifiée, c'est-à-dire un vote avec au moins 55% des pays de l'Union, c'est-à-dire en ce moment avec 28, ça doit être au moins 16% qui votent en faveur et qui en même temps représentent 65% de la population totale de l'Union. Ça c'est le vote de la majorité qualifiée et les décisions dans le Conseil européen sont prises
en ce moment, autour de 80% des décisions sont prises selon le vote de la majorité qualifiée.
Les chances.
La question des chances, oui. Ce que je note en ce moment, je voyage pas mal pour donner des conférences sur la situation de l'Union européenne. L'Union européenne en crise devant les élections. Oui, c'est vrai qu'il y a un désenchantement et il y a une certaine fatigue. Autant en Allemagne qu'en Espagne où j'étais récemment. Et je note aussi que en France, oui, c'est un peu l'ambiance. En même temps, vous avez fait allusion au pape François. Nous avons un pape qui vient, comme il disait lui-même, de la fin du monde, mais qui a ses racines en Europe et qui a fait déjà 5 discours majeurs sur l'Europe, sur l'Union européenne. Une de ses premières visites hors du Vatican au mois de novembre de 2013, c'était à Strasbourg pour visiter le Parlement européen. Il a fait un discours majeur devant le Parlement où il disait, entre autres choses, qu'on ne peut pas permettre que la Méditerranée se transforme en un grand cimetière. Où il a comparé l'Union européenne à une grand-mère, ce qui n'était pas très gentil avec les grand-mères et non plus très justifié. Et il s'est corrigé plus tard dans un autre discours, il disait non, l'Europe est plutôt encore en capacité de mère, d'engendrer, de créer. Donc nous avons ces 5 discours du pape François et le discours le plus substantiel pour moi, c'est le discours qu'il a fait quand il a reçu le prix Charlemagne. Et si vous cherchez de l'inspiration, si vous cherchez de l'encouragement, je vous conseille de lire ces discours du pape. Il y a une édition où manque encore le dernier discours qu'il a fait il y a un an et demi à la fin d'un congrès qui a eu lieu à Rome, Repenser l'Europe. Mais vous trouvez dans ce petit livre les 4 discours majeurs. Et pour le répéter, moi, je maintiens l'espoir. J'essaie de prendre une perspective plus large. Juncker, il dit, s'il voyage hors de l'Union européenne, il est toujours frappé par l'admiration. Et c'est aussi une question de fait que l'Union européenne attire. Je me souviens d'une phrase d'un jeune Africain de la Côte d'Ivoire, réfugié. « Pourquoi est-ce que vous venez à l'Europe, en Europe ?» Il disait « Parce que je ne supporte pas de vivre dans une situation où il n'y a pas d'état de droit. » Ça, c'est un des fondements de l'Union européenne, qu'on vit dans un état de droit, où il n'y a plus la peine de mort. Herman Van Rompuy est le premier président du Conseil européen. Il aime mentionner 3 chiffres pour caractériser un peu ce qui est aussi cet aspect d'attraction de l'Union européenne. Il dit l'Europe en ce moment, ça fait à peu près 6% de la population mondiale. Ça fait à peu près 16% de la puissance économique globale. Et 50% des dépenses sociales en comparaison avec la situation mondiale. Et je crois que ça, c'est des acquis. Hein. Je fais dans mon article aussi une analyse critique du panorama social en Europe. On peut le faire. J'étais à la semaine sociale au mois de février européenne à Milan, où d'un côté, bon, on a justement insister aussi sur les acquis et sur les succès, mais d'autre part, il y a 6 millions d'Européens et d'Européennes qui mangent dans des cuisines de soupe, et il y a 36 millions qui vivent dans l'extrême pauvreté. Et il y a en Espagne un taux de chômage des jeunes au-dessus de 30%. Et ça, c'est des plaies.
c'est des scandales et on ne devrait pas permettre que ça continue. Juncker, il a quand même proposé ce qu'on appelle à Bruxelles le socle des droits sociaux, mais c'est plutôt encore des vœux que quelque chose qui peut être vraiment aussi demandé par force.
Mathilde, vous voulez ajouter un petit mot ?
Alors, non, mais peut-être dans les éléments qui donnent de l'espoir et de la réjouissance, moi, je voulais noter qu'il se passe quand même des choses et que il y a aussi de la construction de mouvements citoyens et de mobilisations qui réussissent à l'échelle européenne. Tout à l'heure, vous mentionnez l'initiative citoyenne européenne, le fait de collecter 1 million de signatures pour pouvoir ensuite demander à la Commission d'apporter une réponse sur un sujet ou de faire une proposition législative sur un sujet. Ça marche pas toujours encore très bien, puisque par exemple, dans le cadre de la pétition pour demander l'interruption des négociations avec les États-Unis, justement le TAFTA, ça avait d'abord été refusé par la Commission européenne, donc là, ça a été organisé de façon autogérée. Il y a 3,5 millions de signatures, 3,6 millions de signatures qui ont été collectées. Puis finalement, il y a eu une décision de la Cour de justice qui a été rendue en disant que la Commission n'aurait pas dû refuser la procédure telle qu'elle avait été lancée. Donc, c'est des outils nouveaux dont les sociétés civiles se saisissent dans tous les pays. Il y a eu aussi une initiative similaire sur le glyphosate, etc. Et je pense que c'est des choses qui vont tendre à se renforcer avec une coordination toujours meilleure des différentes organisations de la société civile dans tous ces pays. Il y a aussi des votes au Parlement européen qui parfois vont vers le mieux-disant. On a eu récemment un accord qui a été trouvé sur la directive sur les lanceurs d'alerte pour mieux protéger les lanceurs d'alerte à l'échelle européenne qui a priori va plus loin que la loi française. Là aussi, je pense que c'est un motif de réjouissance. Il y a une décision sur la pêche électrique. Enfin, il y a des choses qui progressent. Et l'autre chose qui est en train de se passer dans pas mal de pays européens, c'est les mobilisations de jeunes pour le climat. Vous avez certainement entendu parler des mobilisations en France, mais c'est un mouvement qui est très fort en Belgique, qui est très fort dans différents pays. Et donc, je pense que ça, c'est des choses qui peuvent contribuer à faire bouger les lignes. Et effectivement, c'est tous ces jeunes européens qui ont une expérience grâce à Erasmus et à d'autres programmes de l'Union européenne, beaucoup plus européenne que les générations précédentes, ça donnera aussi forcément des résultats.
Oui, à ce propos, quand on parle des élections européennes actuellement qui vont venir, c'est clair que dans les nations européennes, on a peu l'image du Parlement européen, de la façon dont il fonctionne et surtout dont il est en train de prendre son pouvoir en contre-pouvoir de la Commission européenne et du Conseil de l'Europe, parce que au Parlement européen, on retrouve les grands courants politiques de gauche à droite avec un hémisphère classique, disons, et on sent bien qu'il y a des alliances qui traversent les nations ou qui traversent même les nations. On peut fort bien, par exemple, on parlait des différents votes qui ont eu lieu au Parlement européen pour certains points, ici sur les lanceurs d'alerte ou sur les droits voisins. C'est des choses qui sont... Il y a une force énorme des grands multinationales en disant il faut absolument pas que le Parlement donne son avis là-dessus, donc il y a eu un lobbying pas possible, et finalement il y a eu une coalition, comme dans un Parlement normal, entre toute une série de partis, les verts, les rouges, les bleus, les jaunes, peu importe, mais je veux dire, le vote de l'élection européenne permet aussi de donner une coloration à l'Europe. Et c'est clair que si il y a des tensions dans l'Europe, c'est aussi parce que ce Parlement n'a pas encore pris toute son autonomie en termes de représentation des tendances politiques de l'Europe. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle, dans le numéro de la revue Projet, on insiste énormément sur les chances de l'Europe en termes de gouvernance démocratique. Pour l'instant, ce n'est pas une fédération de nations, même si l'unanimité permet à ce que chacun puisse tout bloquer, mais ce n'est pas non plus une union à l'américaine où ce serait un seul peuple et on ne sera jamais séparé de nos racines. Donc on ne va pas avoir un Européen qui sera le même partout. Mais donc la question, c'est comment faire en sorte d'être à la fois diverse et à la fois unie. Et c'est vraiment ça le projet européen. C'est la question des mobilités. La solution, c'était de laisser tout les mobilités fluides. Et on se rend compte que la fluidité n'est pas toujours... Elle doit être régulée, disons. Voilà. J'entendais justement au conseil des évêques français l'ancien président italien qui parlait. Il dit ce qui est important... En Europe, il y a des défis demain où il y aura que l'Europe qui sera capable de donner une réponse. Alors, soit on prendra la possibilité d'y répondre, soit on sera pas dans la cour de ceux qui jouent. Il prenait comme défi l'écologie, on vient d'en parler, mais il disait aussi, pourquoi est-ce que dans les technologies du style smartphone, l'Europe n'existe pas? Il n'y a pas un smartphone européen. Pourquoi est-ce que... voilà, c'est la question de la politique industrielle. Que se passe-t-il? Pourquoi? Mais à un moment donné, il va falloir qu'on se mette ensemble. Enfin, là...
Eh bien, je crois que cette phrase servira de conclusion à notre débat, puisque nous avons atteint la fin. Les intervenants sont éventuellement à votre disposition quelques minutes, si ce que j'ai vu des mains qui s'étaient levées, s'il y a des questions qui vous brûlent. Quelques indications pour terminer avant les applaudissements finaux. Le prochain mardi d'éthique publique aura lieu le 7 mai. Il sera autour du grand débat national. Je vous signale aussi dans la série des conférences sur l'Europe, mardi prochain au Bernardin, le 9 avril, conférence donc que je l'ai indiquée sur les saints patrons de l'Europe. Vous trouverez donc le numéro de projet en vente à la sortie, ainsi que d'autres numéros, je pense aussi des numéros d'études qui sont en vente. N'hésitez pas à les regarder et même à les acheter. Vous avez aussi quelques urnes qui accueilleront volontiers votre bol si vous êtes satisfait de la soirée, ce dont je ne doute pas. Nous terminons ainsi. Merci à vous et bonne soirée.
Merci à vous.